Et mesdames, messieurs, et je vois que les dames sont majoritaires, et ma foi, c'est tout à fait normal. En plus, on a une conjonction Lune-Mars-Pluton ce soir en Sagittaire, au trigone de Vénus et au sextile de la Lune noire. Donc, on peut dire que les valeurs lunaires sont à l'honneur et exacerbées. Et pour parler du surréalisme et d'André Breton, on est en parfaite analogie. Alors, je vais vous faire pénétrer dans un univers, une constellation, le surréalisme. Et pour nous accompagner ce soir, j'ai à mes côtés Monsieur Saran Alexandrian, qui a rejoint le mouvement surréaliste et donc côtoyé André Breton dès 1947, si je ne m'abuse. Hein. Monsieur Saran Alexandrian a donc pris part à toutes les manifestations collectives, pris part à l'exposition aussi internationale Galerie Marthe également. Et pour parler au présent, il est rédacteur en chef de la revue Supérieur Inconnu, auteur de nombreux ouvrages comme par exemple Histoire de la philosophie occulte, un très bel essai sur André Breton publié aux éditions Gallimard, et dernièrement un livre sur la magie sexuelle et les rêvières et sortilèges. C'est cela, oui. Et vous voulez peut-être dire quelques mots avant que je me lance dans le...
Je peux dire que nous nous sommes rencontrés, Fabrice Pascot et moi, à la faveur d'André Breton, puisqu'il m'a envoyé le thème astral d'André Breton qu'il avait publié dans l'Astrologue. Et j'ai été tout de suite frappé et même émerveillé de voir la concordance de ce qu'il avait découvert dans le thème astral d'André Breton et le personnage d'André Breton lui-même, tel que je l'ai connu et pratiqué pendant toutes ces années où il a été, pour ainsi dire, mon maître spirituel. Voilà.
Alors évidemment, vous faire entrer dans le surréalisme en l'espace d'une heure, c'est pratiquement impossible. Je vais uniquement vous sensibiliser à cet univers, vous sensibiliser à une personnalité majeure du XXe siècle, André Breton, personnalité complexe, avec beaucoup de nuances, mais il est, à mon avis, à l'origine du mouvement intellectuel, artistique, littéraire le plus important du XXe siècle. Ionesco, à la mort d'André Breton, avait écrit ceci, début de citation, « Je le mets sur le même plan que Einstein, Freud, Jung, Kafka, c'est-à-dire que je le considère comme l'un des 4-5 grands réformateurs de la pensée d'aujourd'hui. Le plus étonnant est que celui qui prônait l'irrationalisme était l'homme le plus lucide que j'ai connu. Il a découvert en poésie une troisième dimension de l'esprit. » Alors le surréalisme, avant de nous lancer dans le ciel astrologique d'André Breton, il convient de le définir. Vous avez tous entendu le mot surréalisme, surréaliste, cité dans les médias, presse écrite ou presse audiovisuelle. Simplement, le terme est maintenant rentré dans le langage, je dirais, public. Évidemment, la définition qu'on en fait n'est pas la bonne définition. On emploie le mot surréalisme pour parler d'insolite, de fantaisiste, d'incohérence, par exemple, procès surréaliste, ambiance à l'Assemblée nationale surréaliste. Hélas, ni les procès sont surréalistes et les ambiances à l'Assemblée nationale non plus, sinon ça serait très intéressant. Alors je vais vous donner la définition qu'en a faite André Breton lors de la rédaction du premier manifeste du surréalisme en 1924. Surréalisme non masculin, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et en 1930, il précisera davantage le but de l'activité surréaliste en nommant point suprême le lieu de résolution de tous les contraires. Et il dira, tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on cherchera à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Alors vous voyez, on est loin de l'Assemblée nationale ou des procès. Hein. Alors, André Breton, je vais vous demander de prendre le thème d'André Breton qui est dans le dans l'Astro Bistrot. C'est le thème qui se trouve sur la gauche. Alors, André Breton est né le 19 février 1896 à 22h à Tingebray. Alors nous voyons qu'il est né sous un soleil poisson avec un ascendant dans le signe de la balance. Alors évidemment, pour vous tous qui connaissez l'astrologie, vous savez très bien que quand on a dit que quelqu'un était né sous le signe du poisson avec un ascendant balance, on n'a pas dit grand-chose. Alors, simplement, juste pour commencer, nous voyons quand même un soleil poisson, donc un soleil quand même qui plonge. Le soleil, c'est la conscience, c'est le centre de l'être, c'est le rayonnement. Nous avons donc déjà un soleil qui plonge dans le monde de poissons, dans le monde de Neptune. Le monde de Neptune, c'est quand même l'infiniment grand. C'est un monde très psychique, un monde de fusion. Et vous verrez dans le développé combien Breton était un homme de rassemblement et combien le surréalisme a été un mouvement d'une envergure internationale. Ce qui est tout à fait les valeurs déjà à l'origine neptunienne. Et l'ascendant balance, eh bien ma foi, il est sous la maîtrise de Vénus. C'est déjà une note, je dirais, artistique, puisque la Vénus balance est l'octave supérieure de la Vénus taureau, donc elle est beaucoup plus esthète, beaucoup plus dans le raffinement. Et cette Vénus, nous la trouvons en maison 4 dans le signe du Capricorne. Alors, cette position que je vais développer par la suite, mais c'est uniquement déjà pour donner trois, je dirais, touches du clavier astrologique d'André Breton, très important. Cette Vénus Capricorne, conjoint à Mars, opposition dissociée à Jupiter, et avec un sesquicarré à Pluton, vous allez voir combien cette Vénus a joué dans sa vie, et combien cet homme a réussi à la sublimer, malgré bien des, je dirais, des déboires et des souffrances sentimentales et affectives. Mais je vais revenir maintenant au début du surréalisme. Alors, automatisme psychique pur pour arriver à exprimer le fonctionnement réel de la pensée. Alors, quel va être le procédé qu'André Breton va employer pour arriver à déclencher cet automatisme psychique? Eh bien, ça va être l'écriture automatique. André Breton se dirigeait vers des études de médecine. Il était étudiant en neuropsychiatrie. Il avait comme élève le professeur Babinski, qui était une grande figure de la psychiatrie, lequel voyait en Breton un futur grand de la psychiatrie. Alors, hélas pour la psychiatrie et heureux pour l'art et la littérature, Breton a quitté la psychiatrie parce que l'appel de la poésie et du merveilleux était plus fort que tout. Ce qui nous parle encore de ce soleil poisson et de cet ascendant balance. Et Breton va découvrir un ouvrage qui va être déterminant, c'est l'automatisme psychologique de Pierre Janet. Et là, en bon poisson, avec cette intuition, cette perception très fine, notons qu'il a un Neptune en maison 8 conjoint à Pluton, quand même, au trigone de Mercure, il va se dire que là, il y a peut-être une clé pour arriver à forcer les cloisons de l'inconscient, à arriver à laisser déverser le flot de ce langage onirique. Et il a un ami à l'époque, c'est Philippe Soupeau. Philippe Soupeau qui lui a été présenté par Guillaume Apollinaire. On ne peut pas s'empêcher de parler d'Apollinaire, grand poète quand même. Et puis c'était toute l'effervescence de l'époque, du Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés. Et tous les deux, évidemment, ils sont à la recherche de quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes garçons qui sortent de la guerre de 14-18. Ils ont été marqués, traumatisés par cette guerre. Et ils sont écœurés par tout ce qu'ils ont vu et même par les promesses politiques qui n'ont pas été tenues. Donc il y a une grande cicatrice, c'est ces jeunes garçons. Et tous les deux, ils vont décider de passer à l'écriture automatique. Alors je tiens à préciser une chose, l'écriture automatique surréaliste se démarque de l'écriture automatique spirit. C'est pas du tout le même monde. Les spirites pratiquent l'écriture automatique pour rentrer en contact avec les défunts, donc dans l'acception médiumnique du terme, Alors que les surréalistes ont davantage une approche beaucoup plus, je dirais, matérialiste, c'est-à-dire que c'est la libération de l'inconscient. Pour les surréalistes, il n'y a pas d'au-delà. De toute façon, le surréalisme a toujours nié toute transcendance, pour être très clair. Donc, la définition dès le départ des surréalistes est claire. Donc, Philippe Soupeau et André Breton vont, pendant des jours et des jours, se mettre face à face et pratiquer l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'ils vont écrire le plus vite possible, sans contrôle de la raison, pour laisser parler l'inconscient. Et ça donnera naissance à un ouvrage qui va faire grand bruit à l'époque, Les Champs magnétiques. D'ailleurs, ce livre majeur dans l'histoire de la littérature a pris naissance à l'Hôtel des Grands Hommes qui se trouve au Panthéon. À cette époque-là, Breton résidait dans cet hôtel et Philippe Soupeau lui rendait visite. Et là, en face de l'hôte, il se prêtait. Alors évidemment, il y a eu des conséquences. Il y a eu des états d'hallucination, des états où Breton disait qu'il se voyait poursuivi par des rats. Après, l'état normal, parce que tout ceci n'est pas neutre quand même. On ne joue pas avec l'inconscient et les forces psychiques comme ça. C'est pas une récréation. Alors on va se porter vers le thème de Breton maintenant pour essayer de découvrir dans son thème quel est l'aspect qui nous parle de cette volonté et de cette pratique d'écriture automatique. Eh bien, en ce qui me concerne, nous voyons un Mercure. Enfin, quand je dis en ce qui me concerne, c'est mon analyse. Nous voyons un Mercure Verseau, maison 4, qui fait un trigone à la conjonction Neptune-Pluton-Gémeaux, maison 8. Alors là, nous avons toute la vague déferlante. C'est-à-dire, nous avons un Mercure qui est déjà sous l'emprise d'Uranus. Bon, un Mercure-Uranus, c'est quand même un Mercure d'arrachement et d'élancement. C'est quand même un Mercure qui est... C'est le Hermès qui cohabite avec Uranus. Donc ce sont les forces d'ascension. Et ce Mercure dialogue harmonieusement avec Neptune-Pluton. Alors Neptune, eh bien, c'est la planète de son signe solaire, puisque le Soleil est en poisson, donc sous la maîtrise de Neptune. Donc il y a encore résonance neptunienne. Et Neptune, ce sont les forces psychiques de l'inconscient. C'est un Neptune maison 8, qui analogiquement est la maison du signe du Scorpion. Et ce Neptune cohabite, discute avec Pluton. Et Pluton, bah, qu'est-ce que c'est ? C'est Hadès, il est en dignité accidentelle puisque Pluton est dans sa maison, 8, et c'est la bouche d'ombre. C'est-à-dire que nous voyons les capacités intellectuelles mercuriennes rencontrer les valeurs psychiques de Neptune pour parvenir à forcer les cloisons de l'inconscient représentées par Pluton, qui symbolise le monde obscur, le monde souterrain. Pluton, c'est le docteur Faust du Zodiac, c'est le spéléologue de l'âme humaine, Pluton. C'est, pour paraphraser Henri Michaux, la connaissance par les gouffres. C'est-à-dire qu'on descend dans les profondeurs et on essaye de ramener à la surface par ce Mercure Verseau, qui, n'oublions pas, est un Mercure, lui, qui tend à s'élever, donc qui ne tend pas à se laisser manipuler ou ensevelir parce que la bouche d'ombre va ramener. Et l'écriture automatique était axée quand même sur la vitesse du débit de l'écriture. Et qu'est-ce qui nous parle de la vitesse dans cette configuration? Eh bien, c'est que la conjonction est dans le signe des Gémeaux, qui non seulement signe, premier signe mercurien du zodiaque, signe d'air, qui signe la vélocité intellectuelle, et astrologie traditionnelle de base, mais il faut toujours en revenir à cette astrologie, le Gémeaux signe aussi les mains, et la main, dans ce cas-là, elle était libre, puisque le mental ne la contrôlait pas. C'est-à-dire que c'était le mot qui véhiculait l'idée, et non l'inverse. Donc, voilà cette première ligne de force dans le thème d'André Breton. Alors maintenant, je vais un petit peu revenir en arrière pour parler d'un autre événement majeur dans la vie de Breton. Il y a toujours des éléments déterminants dans une vie, des éléments qui vont être déclencheurs. Et pour ce faire, je vais prendre vraiment Abélio, qui dans l'un de ses livres, je crois que c'était les yeux d'Ézéchiel sont ouverts, qui est un très beau roman, métaphysique, et enfin, qui brasse beaucoup de choses. Et dans son livre, vraiment, Abélio, à un moment donné, dit, et ça m'a beaucoup frappé, dans la vie, il y a les rencontres, et puis il y a les rendez-vous. Alors les rencontres, eh bien, c'est des moments effectivement importants, des moments d'enthousiasme, où on va en garder un souvenir, une trace. Et puis les rendez-vous sont d'une toute autre intensité, d'une toute autre ampleur. Du rendez-vous, quelquefois, un destin peut basculer, parce que le rendez-vous a un effet de révélation, on va dire d'illumination, mais je mets beaucoup de réserve à ce mot. Et André Breton va connaître ce rendez-vous, parce qu'en fin de compte, avec Breton, on est confronté à un destin, c'est indéniable. Et ce rendez-vous, ben, il lui est fixé dans un lieu de Paris, le musée Gustave Moreau, qui se trouve rue de la Rochefoucauld, musée qui est ouvert au public. C'était l'atelier du peintre qui est maintenant devenu le musée. Et Breton allait fréquemment visiter ce musée. D'ailleurs, il y a une anecdote que je vais vous raconter. On dit que c'est une légende, mais l'intérêt d'une légende, c'est ce qu'elle nous renvoie. Peu importe si elle est vraie ou fausse, ça n'a pas beaucoup d'importance. On dit que Breton aimait se laisser renfermer la nuit dans le musée Gustave Moreau pour observer l'étoile à la flamme de l'allumette ou du briquet. Alors évidemment, je ne sais pas si vous êtes allé dans ce musée, si vous connaissez l'œuvre de Gustave Moreau, qui est une œuvre mythologique, grandiose, à souhait, où vous avez des toiles extraordinaires. Alors, j'imagine contempler ces toiles dans l'obscurité, ça doit faire un effet assez extraordinaire. Et ça ne pouvait que stimuler ce soleil poisson de Breton au trigone de Neptune-Pluton. C'est tout à fait un monde mythologique, le monde de Gustave Moreau. Et alors, Breton a écrit ceci, je cite, « La découverte du musée Gustave Moreau, quand j'avais 16 ans, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. La beauté, l'amour, c'est là que j'en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le type de ces femmes m'a probablement caché tous les autres. Ça a été l'envoûtement complet. » Alors le texte est fort. Et quand on sait qu'André Breton a accordé un grand intérêt au langage, qu'il avait une précision du langage extrême, n'est-ce pas, monsieur Effondriant ? Oui. On se dit que peut-être que les mots dépassent la pensée. Breton était un grand poète. Eh bien non, vous allez voir que là, une fois de plus, l'astrologie nous donne de grandes informations. Et nous allons employer pour ça la synastrie, qui est la rencontre de deux thèmes. Et pour les astrologues praticiens, je vous invite à faire des synastries parce que c'est extraordinaire ce que l'on peut lire. Quand vous avez en consultation, vous savez, vous avez souvent des gens qui sont pris dans des relations sentimentales, c'est souvent ça, inextricables, passionnelles. Ils savent que c'est un bide total, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont en train de se brûler, mais il y a quelque chose de plus fort que tout qui fait que cette relation dure. Et en consultation, vous avez beau leur dire « Mais oui, mais vous savez bien que ça ne peut pas aller », ils le savent, ils le savent. Et quand vous faites la synastrie des deux personnes, vous voyez la rencontre qui est là et qui met la relation dans un état irrationnel et passionnel. Alors on va reprendre le thème de Breton et on va également regarder le thème de Gustave Moreau qui se trouve au Verseau, à droite. Alors vous allez faire juste un petit jeu de passe-passe et je vais uniquement vous demander de considérer la Vénus Capricorne d'André Breton, qui se trouve, j'ai pas pris mes lunettes, à 25 degrés 30 du Capricorne, et de considérer l'Uranus de Gustave Moreau, qui se trouve à 23 degrés 56. C'est-à-dire que nous avons là, alors Uranus, c'est ça. Alors nous avons là la superposition. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute l'étude de la synastrie, hein, parce qu'on y passerait des heures. Mais uniquement cette rencontre par rapport à l'éblouissement qu'a connu Breton. Nous avons l'Uranus de Gustave Moreau qui se superpose, conjonction parfaite, à un degré près, sur la Vénus de Breton. Alors ça, c'est tout à fait l'aspect coup de foudre, illumination. Uranus, c'est quand même une valeur volcanique, d'éblouissement, d'éclatement. Et ces valeurs uraniennes de Gustave Moreau épousent les valeurs vénusiennes de Breton. Donc on voit bien là l'envoûtement, on voit l'éblouissement, la révélation, dont dit Breton. Hein. Il dit bien, j'ai perdu ma page, excusez-moi. Quand j'avais 16 ans, la découverte a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. Alors, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. Pour toujours, Eh bien, pourquoi ce toujours? Ben, ça se passe dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne, c'est Saturne, c'est la durée. C'est ce qui va s'inscrire dans la pierre. Parce que le Saturne, c'est la pierre. Je ne vais pas revenir à la mythologie avec la pierre engloutie, mais bon. Là, on a une passion qui va s'inscrire dans l'histoire, dans les Bretons, et dans sa sensibilité. Pourquoi? Parce que Vénus est maîtresse du signe ascendant Balance. Donc c'est quelque chose qui va s'inscrire en lui d'une façon durable, et toute sa vie, il reviendra fréquemment à Gustave Moreau dans divers de ses écrits. Je vais enchaîner sur un autre personnage, mais très très rapide, c'est Salvador Dali, que vous connaissez tous. Alors Dali est à côté de Moreau, donc ça va simplifier le regard. Alors Dali, bon ben je vous le présente pas, hein. On connaît tous le provocateur, le peintre de grand talent, bref. Mais alors Dali, c'est pareil, quand il a découvert Moreau, ça a été aussi une rencontre très importante. Et quand Dali est arrivé sur Paris, c'est une anecdote, mais peu importe, il montait dans un taxi, et il disait au taxi, conduisez-moi au musée Gustave Moreau. Et la première fois où Dali a vu une œuvre de Gustave Moreau, il s'est écrié « Papa ». Alors évidemment, on va se dire que c'est encore une facétie de Dali. C'est encore un tour de passe-passe Dali, etc., etc. Alors là, c'est pareil. On essaye de voir en confrontant les deux thèmes. Et là, c'est pareil. Dali, Gustave Moreau, qu'est-ce qu'on note? Je vous laisse quelques instants pour le constater vous-même. Et nous avons la superposition, alors exacte, Soleil-Jupiter. C'est-à-dire que le Soleil de Gustave Moreau colle au Jupiter Bélier de Dali. Ce sont les deux valeurs du père aussi. On dit que Jupiter est un anti-Soleil par le fait qu'il y a un rapport de rivalité et de pouvoir. Le solarien, si vous avez quelqu'un en consultation un jour qui a une dominante solarienne, le solarien, il est très individué, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des autres pour briller, il sait qu'il brille. Et il se contrefou, c'est très caricatural, parce qu'un thème est beaucoup plus nuancé, mais c'est une tonalité, le solarien sait, il connaît sa propre valeur, et il n'a pas besoin que les autres viennent lui dire qu'il brille, il sait qu'il brille. Alors que le jupitérien, lui, pour sa grandeur, il a besoin d'un parterre, il a besoin d'une cour, c'est Zeus, c'est le roi. Donc il y a une lutte de rivalité entre un soleil et Jupiter. Et là, il y a une superposition. Donc Dali décode d'une façon naturelle et intuitive les valeurs aussi de rivalité, parce que Dali avait une mégalomanie extraordinaire qu'il a entretenue. Papa, le surgissement inconscient, papa. Alors je passe aussi sur la Lune. Vous voyez que la Lune se superpose à la Lune de Moreau avec Pluton, donc tout le rapport psychique qui s'est établi entre ces deux personnages. Alors je vais m'arrêter là sur les synastries, c'était uniquement pour vous sensibiliser à cette technique de lecture qui est d'une grande richesse aussi dans le langage astrologique. Alors maintenant je vais aborder un aspect du thème de Breton qui est la maison 4. Alors ce que je vais vous dire là est très très personnel, ce sont des déductions. En tant qu'astrologue praticien, il m'arrive fréquemment de commencer un thème, d'entrer dans un thème par la maison 4. J'ouvre la porte, c'est la 4. Alors pourquoi? Bien pour moi la maison 4, qu'on appelle le fond du ciel, c'est dans mon jargon personnel l'ascendant occulte. C'est-à-dire que c'est la face cachée de la personnalité. C'est, je dirais, la partie intime, secrète de l'être. Bon, on dit que la maison 4, c'est la maison de la famille que l'on va créer, la maison de l'enfance, la maison de la mère. Donc tout ça est très, très fertile, très, très fluidique. Et donc, par association, pour moi, je dis que c'est aussi la partie secrète de l'individu qu'il livre quand il accepte que les autres pénètrent dans son univers intime. Donc c'est pour ça que je l'appelle l'ascendant occulte. Et nous voyons chez Breton un encadrement 4 Vénus-Mars, signe du Capricorne. Alors j'ai toujours pensé que, malgré le fait que Breton était un rassembleur, un homme qui a toute sa vie été animé par l'énergie de créer un mouvement de libération sur le plan psychique, c'est-à-dire que le surréalisme n'a pas été uniquement un mouvement intellectuel et artistique, c'était aussi une façon de vivre, une façon de percevoir la réalité. Le surréalisme voulait résoudre le divorce du rêve et de la réalité. Pour lui, rêve et réalité ne faisaient qu'un. D'où les grandes expériences oniriques qu'ont fait les surréalistes avec les collages, les cadavres exquis, enfin ça, si vous avez envie de découvrir cet univers, je vous laisse le soin de découvrir tout ça, parce que c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, Breton a toujours été un homme de la solitude. Il y a un secret dans la vie de cet homme, il y a une face cachée, immergée de l'iceberg, où il y a une quête, une grande solitude. Et là, je me tourne vers M. Alexandrian, et je lui pose cette question, vous qui avez donc connu Breton. Moi, je pense que c'était un homme qui était déjà habité par le silence. D'abord, est-ce qu'il était si, comment dirais-je, non pas communicatif, parce qu'il l'était, mais est-ce que c'était vraiment un homme de la discussion, dans l'exception, on l'entend classiquement? Est-ce que ce n'était pas davantage un homme de l'écoute? Un. Et puis surtout un homme de la solitude. Alors il y a l'anecdote qui dit que Breton rentrait tous les jours à 22h chez lui. Ce n'était pas un octambule, c'était un casanier. Hein? En plus, Breton n'a jamais déménagé. Ce n'était pas un voyageur, c'était un voyageur mental, mais physiquement, il détestait les voyages. Nous avons une 4 Capricorne. Pour seul déménagement qu'il ait fait, il habitait au 42 rue Fontaine à Paris, et du premier étage, il est passé au troisième. Donc vous voyez, c'est un prodigieux déménagement. Donc c'était vraiment un homme ancré dans ses racines. Alors voilà, je vous passe le micro.
Oui, mais Breton était l'homme de la réalité intérieure. Alors évidemment, la réalité intérieure, ça donne à un écrivain même comme lui, qui est un meneur d'hommes, une vie d'anachorète, une vie de moine. C'était un homme, un ascète, il faut bien le dire. Breton, on l'a parlé de lui comme d'un pape, ce qui est évidemment un peu caricatural, mais c'était un homme qui avait une spiritualité immense qui se dégageait de lui, et ça ne peut pas se faire, évidemment, comme dit Fabrice Pascot, sans une solitude préservée. Il vivait dans une île, mais une île, évidemment, entourée d'une tribu, si on peut dire. Voilà. Mais c'est tout à fait concordant. Tout ce qu'il dit de lui est concordant avec ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un homme à la fois très ouvert à tout le monde, écoutant tout le monde, mais en même temps refermé sur sa propre intériorité. Voilà.
Alors donc, cette maison 4, pour moi, c'est la... Alors, je vais pas dire c'est la clé du thème, parce qu'il n'y a pas de clé dans un thème. C'est un thème, c'est tout l'ensemble, mais c'est pour moi la partie, j'oserais dire, névralgique de ce thème. Nous avons donc cette conjonction Vénus-Mars, opposition dissociée Jupiter, c'est ce qui carré Pluton. Cette Vénus-là, elle est pas à l'aise, hein, c'est pas extraordinaire. Hein. Alors évidemment, dans tous les manuels de l'astrologie, on vous dira qu'une Vénus Capricorne, elle est malheureuse. Bah oui, c'est la grande mélancolique. C'est la Vénus pudique, et Breton était un homme pudique, une grande pudeur. Ouais. C'est la Vénus de... Les sentiments sont intériorisés, il faut le découvrir. C'est pas l'italien, quoi. Excusez-moi s'il y a des italiens, mais bien c'est pas le type sud. Tout est intériorisé, en retenue. Mais alors, c'est aussi la profondeur des attachements, des sentiments. Il dira dans un de ses textes, ce que j'ai aimé, que je l'ai gardé ou non, je l'aimerai toujours. Et c'est vrai que sa vie a été ponctuée par des ruptures, parce que n'oublions pas que cette conjonction Vénus, Mars, Capricorne est aussi une conjonction de grande rigidité et de grande exigence, et que quand Breton était déçu par quelqu'un, eh bien, à mon avis, le Mars Capricorne devait arriver à la rescousse derrière, et vous savez, un Mars Capricorne, on dit que Mars est exalté en Capricorne, parce que c'est la combativité, l'agressivité qui rencontre la durée. Et ces ruptures étaient toutes irrévocables. Il ne revenait jamais. Et ce, quand bien même, il cultivait les regrets. Et c'est bien cette Vénus silencieuse du Capricorne, dans la maison 4. Ils gardaient le regret, la souffrance. Il y a un rapport quand même très... Je ne vais pas dire masochiste parce que le mot est trop fort. Je déteste les termes... Mais il y a quand même une douleur qui est là. Il y a une douleur rentrée, intériorisée. Et puis, bon, c'est vrai qu'au niveau de sa vie sentimentale, ben, il y a quand même et toujours eu un type de femme dans ses rapports dominatrices. Sa vie sentimentale, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est très indécent de parler de la vie sentimentale de quelqu'un en son absence. Mais vous pouvez le lire, vous qui faites de l'astrologie, vous voyez que cette Vénus aussi a subi bien des échecs. Quand on voit cette Vénus, c'est ce qui carré Pluton, un Pluton 8 en plus, et puis Mars qui vient derrière donner un coup de lame, tout ceci n'indique pas une vie sentimentale très douce. Et c'est pour ça que Breton avait mis paradoxalement dans l'amour toutes les forces vives, c'est-à-dire qu'il avait sublimé l'amour. Et dans le surréalisme, c'est bien là où on trouve les plus belles pages sur l'amour, notamment sous la plume de Breton ou d'autres auteurs. L'amour était aussi un moyen de libération, un moyen de sublimation. Et je vais vous lire un passage d'un proche de Breton, dont je vous donnerai l'identité après. « Je n'ai pas connu d'homme qui ait une plus grande capacité d'amour, un plus grand pouvoir d'aimer la grandeur de la vie, et l'on ne comprend rien à ses haines si l'on ne sait pas qu'il s'agissait pour lui de protéger la qualité même de son amour de la vie, du merveilleux de la vie. » Breton aimait comme un cœur bas. Il était l'amant de l'amour dans un monde qui croit à la prostitution. Alors quand on sait que ces paroles, qui sont quand même aussi très fortes, ont été écrites par Marcel Duchamp, et quand on connaît la personnalité de Marcel Duchamp, type même du Saturnien rétracté, assez avare de confidences et de compliments, un brin ironique, hein, un brin acide, quand on lit les questions, ça sera après, Monsieur Breyer. Quand on lit cette phrase de Duchamp, on voit bien résonner cette Vénus Capricorne, l'exigence de cette Vénus Capricorne, hein, la volonté de ne pas en passer par là où d'autres acceptent de passer. Hein, c'est-à-dire les compromissions et la facilité. Donc toujours cette maison 4. Nous voyons qu'il y a Mercure en 4 aussi, quand même. Il est en Verseau, il est assez loin, mais il est dans la 4. On a parlé de son aspect à Neptune-Pluton, mais il est carré Lune. Alors les rapports avec la maman n'étaient pas non plus géniaux. Hein. Le père, encore, ça passait. Maintenant avec la mère, ça passait pas. Hein. Sa mère voulait en faire un grand médecin, et c'est vrai qu'il en avait les aptitudes. Mais bon, il avait décidé de faire tout autre. N'oublions pas qu'il y a un Jupiter qui culmine là-haut. Je vais vous en parler ensuite. Donc avec la mère, ça passait pas, quoi. C'était des rapports de force. D'ailleurs, l'anecdote dit que c'était Philippe Soupeau qui rapportait ça. À cette époque, André Breton habitait Paris. Il était à l'hôtel des grands hommes. Ses parents lui rendent visite. Et sa mère lui dit « Alors, tu poursuis tes études de médecine ?»« Non, j'arrête. » Eh bien, puisque c'est comme ça, André, où tu continues tes études de médecine, on te coupe les vivres. Et il a dit, écoutez, chère mère, vous me coupez les vivres. Et Philippe Soupeau a assisté à la scène, il a dit, fallait être courageux, parce qu'il n'avait aucun moyen de subsistance. Et la mère, les a coupés les vivres, hein, parce que c'était aussi, c'est la lune taureau, hein, c'est la mère protectrice, mais en même temps, trop protectrice, qui peut être très, très enquiquineuse, hein, par la même occasion. Hein. Et oui, bien sûr, possessive, tout à fait, absolument, ouais. Et puis nous voyons que le Mercure est rétrograde. Alors un Mercure rétrograde, déjà, ça marque une nature plus portée vers l'introspection, la réflexion, la méditation. Donc autre note encore, je dirais, d'état plus ésotérique qu'exotérique chez André Breton. Ce Mercure rétrograde est redevenu direct par progression 4 jours après sa naissance. Et comme vous savez, dans les techniques des rétrogradations, le retour direct par progression, un jour, est égal à un an. Alors ça, je vous invite aussi, quand, si vous faites des consultations et que vous avez des gens qui ont des mercures rétrogrades, à regarder, quand le mercure devient direct, ça marque, pas toujours, parce que l'astrologie, ce n'est pas de la, comment dirais-je, une mécanique huilée qui marche à 100%, mais dans beaucoup de cas, vous vous rendrez compte que ça marque souvent un événement. Là,
Chez Breton, qu'est-ce que ça a marqué? Eh bien, les moments les plus heureux qu'il ait passés durant son enfance, c'est avec son grand-père, et son grand-père maternel. On voit la résonance lunaire qui est encore à l'intérieur. Et à l'âge de 4 ans, il a été séparé de son grand-père. Évidemment pour lui, puisque ses parents ont quitté l'Orne et sont montés s'installer sur Pantin. Évidemment pour lui, ça a marqué un moment douloureux, puisque c'était avec cet homme qu'il a goûté la, une certaine forme de poésie, car Breton disait que un cordonnier ou même un menuisier pouvait être plus surréaliste qu'un peintre, n'est-ce pas? Hein? Parce que le surréalisme était aussi une attitude devant la vie. C'était pas de l'élitisme purement intellectuel, il y avait aussi une vision de la vie. Donc, ce Mercure que nous voyons rétrograde, excusez-moi, j'ai coupé le fil de ma pensée parce que je... C'est un Mercure donc Verseau. Alors déjà, ce Mercure Verseau, Mercure, ça signe aussi l'adolescence. Évidemment, Breton, très très jeune, a déjà eu des points de résistance bien à lui, des idées très très arrêtées et très fortes. Ah. Ce qui marque aussi la volonté de rupture avec le milieu familial, parce que n'oublions pas que la maison 4 est en Capricorne, c'était un milieu traditionnel, un peu conservateur, son père était employé des écritures à la gendarmerie. Bon, carré lune, la lune c'est aussi l'enfance, donc on voit que Breton avait envie de s'arracher de ce milieu, hein, tout, à tout prix, partir. Ça ne répondait pas à sa sensibilité. Non. Et comme autre rétrogradation, nous avons ce Jupiter qui culmine. Alors il est beau, hein. Il est en plein milieu du ciel, il est en Lion, c'est un Jupiter Lion. Alors c'est la position des guides. Alors, c'est typiquement la position des personnalités, des gens qui s'imposent, des gens qui ont une autorité forte. Et c'est vrai que Breton avait une autorité, avait une prestance, une très très grande, on va dire un très grand charisme. Et je vais vous lire un extrait de l'ouvrage de M. Alexandrian, de son essai sur André Breton. Voilà ce qu'il en dit. Et vous allez voir combien les poètes et les écrivains peuvent être quelquefois en parfaite analogie avec un thème astrologique. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'étudier le thème des artistes, parce que c'est là où on voit l'astrologie se déployer de la façon la plus belle. Bon, j'ai rien contre d'étudier les thèmes des hommes d'affaires, hein. Mais c'est pas le même octave. Alors, voilà ce qu'on a dit M. Alexandrian, et je trouve que c'est une très belle interprétation du Jupiter Lion 10. On l'a souvent comparé à un lion, mais il faut préciser qu'il n'en avait pas seulement l'apparence. Son rugissement, son coup de patte était redoutable. Je crois qu'une des raisons de l'attrait qu'il exerçait sur la jeunesse était justement sa violence sourde, enveloppée dans des manières courtoises de grand seigneur. Pour ne pas mieux trouver comme définition de ce Jupiter Lion. Violence sourde, il ne faut pas oublier qu'il y a une opposition dissociée Mars-Jupiter, violence sourde, enveloppée dans des manières courtoises de grand seigneur. C'est tout à fait le Jupiter Lion, toute la noblesse du personnage. On dit qu'il avait une courtoisie très 18e siècle, non?
Hein? Il baisait la main des dames, c'était très impressionnant, oui. Surtout au café des deux magots, on le voyait quand on était entouré, on l'entourait, on était une cinquantaine, et une femme arrivait, il se levait, et il baisait la main. Il y en a qui ont essayé d'imiter, mais il était inimitable.
Mais ça se fait encore aujourd'hui,
hein? Oui, ah bah oui, bien sûr.
Oui, c'est vrai. Alors, Jupiter, Lion, milieu du ciel, la figure des guides, des leaders, Breton à la terre. C'est indéniable. Simplement, c'est aussi la position des... Il y a quand même un côté très, très en vue quand on a un Jupiter, Lion. On aime bien se tailler la part du lion, sans jeu de mots aucun. Et le grand paradoxe qu'il y a chez Breton, et ça n'a cessé de me questionner, c'est que Breton a toujours refusé tous les honneurs, tous les prix. On avait voulu lui décerner le prix Nobel, vous savez, les Nobelisés reçoivent avant un courrier disant qu'ils vont faire partie des Nobelisés. Breton avait répondu comme quoi c'était pas la peine de le mettre au nom des Nobel qu'il ne voulait pas. En 1950, on a voulu lui décerner le prix de la ville de Paris,
pour l'intégralité de son œuvre, il l'a refusé. Pourtant, on lui donnait une somme à l'époque de 250 000 francs, c'était les francs de l'époque. Ça aurait pu considérablement l'aider car il vivait, ses conditions de vie étaient très difficiles. On retrouve cette pointe de 4 Capricorne. Il vivait, alors, pas d'électricité, pas de chauffage. Et je crois que vous pouvez en témoigner de ça. Les conditions dans lesquelles il a vécu, parce qu'il a refusé de se mettre à genoux devant les prix et les honneurs, au point où, évidemment, il acceptait de vivre dans des conditions où, vu le prestige qu'il avait, il aurait pu très bien rentrer sur le tapis rouge et dans les milieux littéraires, lesquels ont essayé, à un moment donné ou à un autre, de le récupérer. Parce que c'était quand même le loup blanc, c'était le grand agitateur. Mais, refus d'obtempérer, de sa part. Alors moi, je me suis dit, mais comment ça se fait avec ce Jupiter? Mais il est rétrograde, également. Et vous savez, les rétrogradations ont une importance beaucoup plus importante qu'on peut croire en astrologie. Il y aurait un énorme travail à faire là-dessus. Un Jupiter rétrograde, bien là, c'est toutes les forces de Jupiter qui s'intériorisent. C'est-à-dire que la richesse devient la quête de la richesse intérieure. C'est plus la richesse extérieure, le côté très m'as-tu vu d'un Jupiter Lion. Là, c'est plus la recherche de soi. Hein, je résume. C'est aussi le besoin de communiquer aux autres ce que l'on va ramener de sa propre quête intérieure. Et on voit que ce Soleil, on voit que ce Jupiter, pardonnez-moi, est au quinconce du Soleil. Alors c'est quand même un aspect de tiraillement au niveau de la puissance et du pouvoir énorme. Donc je pense que ce n'a pas été forcément toujours facile pour Breton. Il y a pu avoir à un moment donné la tentation de se dire après tout... j'ai fait mon œuvre, j'ai fait mes preuves, je peux bien un petit peu récupérer une part du gâteau. Ben non. Ce quinconce marque le point, à mon avis, de tension du personnage également. Parce que c'est quand même Soleil, Jupiter. Deux aspects. Et n'oublions pas que Jupiter est le second maître du signe du poisson et que le Soleil est le maître du signe du lion. Donc il y a une réception mutuelle dans l'aspect qui renforce encore la chose. Et ce Soleil est au carré également d'Uranus. Donc on voit bien encore là une volonté d'indépendance farouche, de lutte contre toute forme d'autorité. C'est son indépendance avant toute chose. Et ce qui a fait la grande force du mouvement surréaliste, c'est que Breton a toujours refusé de l'assujettir à tout autre mouvement, tout le temps. C'était le surréalisme. Non pas comme un dogme, mais parce que c'était une façon de vivre, une façon de résoudre les antinomies et une manière de sublimer la réalité. D'où le surréalisme. Cette Vénus, Capricorne, maison 4, c'est aussi son intérieur. Et alors quand on allait chez André Breton, moi j'ai eu la grande joie d'y aller qu'une seule fois. Breton était décédé à l'époque, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Je peux vous dire que c'était extraordinaire de rentrer chez lui. C'était un musée. D'ailleurs, actuellement, à Beaubourg, ils ont reconstitué le derrière de son bureau. Ça fait un drôle d'effet quand on arrive et qu'on voit ça en vitrine. Breton qui était asthmatique, qui manquait d'air, là encore on le renferme. Bref, c'est une remarque personnelle. Mais entrer chez lui, on ne savait pas où poser les yeux. Déjà, chaque objet avait une place précise. C'est-à-dire que Breton orchestrait son intérieur d'une façon très magique, d'où le soleil poisson. Chaque objet avait une place, et chaque objet conversait avec tel autre objet. Il passait des nuits entières à changer ses objets de place, parce que vers la fin de sa vie, il était devenu insomniaque. Alors, monsieur Alexandrian, vous qui êtes allé souvent chez André Breton, est-ce que vous pourriez en parler à nos amis présents ce soir de cet intérieur? Gratte disait que c'était l'antre du chaman, d'ailleurs.
Oui, mais je peux d'autant mieux dire la surprise que j'ai eue quand je l'ai été la première fois, parce que j'avais 19 ans, et c'était un homme de 50 ans, majestueux, extraordinaire, avec cette crinière de cheveux gris, et j'entre dans cet atelier, qui faisait un contraste extraordinaire entre la pauvreté de l'atelier lui-même, qui avec sa verrière vétuste, avec son plancher qui était lavé, et ses œuvres qui étaient au mur, qui sont tous dans des musées. Il y avait l'objet invisible de Giacometti, il y avait l'énigme de Guillaume Tell de Dalí, des œuvres fabuleuses qu'on lui avait données, que tous les peintres qu'il avait, on peut dire, défendus, alors qu'ils étaient indéfendables, lui avaient donné. C'était fabuleux. Et il y avait tous ces masques et ces statues océaniennes, parce qu'il avait une passion de l'Océanie, et il y avait des objets qu'il avait trouvés au marché aux puces et qui étaient merveilleux. C'était fabuleux. C'était un choc initiatique, on peut dire. Voir entrer quand on a 19 ans dans un atelier, dans un intérieur pareil, c'est inoubliable. Et avec un personnage pareil qui, tout en étant majestueux, reçoit un jeune homme comme s'il était le porteur d'un message ineffable. Il pensait que tout jeune homme est un futur Rimbaud. Voilà. Alors ça, c'était extraordinaire. Voilà.
Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote de Claude Lévi-Strauss sur Breton. Claude Lévi-Strauss avait été totalement bluffé par Breton. Ils faisaient un marché, tous les deux, et Claude Lévi-Strauss avait tout son savoir d'anthropologue. Breton n'était pas un anthropologue. Et il s'arrêtait devant des collections d'objets, et Breton choisissait d'emblée l'objet rituel, l'objet qui avait une importance fondamentale. Non seulement l'objet authentique, parce qu'il y a des faux qui circulent, mais en plus l'objet qui avait une réelle portée rituelique. Et Strauss était bluffé par cette capacité qu'il avait de saisir le merveilleux et l'occulte dans la réalité. Et on voit bien ce soleil poisson qui a joué à plein, surtout que c'est un soleil quand même maison 5, qui est un secteur de création. Toujours cette Vénus Capricorne, en 1920, le couturier mécène Jacques Doucet engage André Breton pour aller chercher les œuvres, les textes majeurs de l'époque, pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds Jacques Doucet. C'est là où on dépose toutes les œuvres aujourd'hui. Alors, on va reprendre, on va faire encore la synastrie, et là je peux vous dire que on est servi. Donc le thème de Jacques Doucet, il est... je le trouve pas, moi. Je veux pas vous dire. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, bon, ils sont nés tous les deux un 19 février, bon, d'accord. Mais ils sont tous les deux ascendant Balance, avec un soleil au même degré. Donc il y a déjà une belle rencontre solarienne. Mais là, pour moi, l'élément de superposition le plus frappant, c'est que je vois que la Vénus de Jacques Doucet, qui est à 10 degrés du Verseau, se superpose au Mercure de Breton. Conjonction parfaite. Et quelle a été en fin de compte la fonction de Breton auprès de Doucet? Ben, ça a été le petit Hermès au pied ailé qui est allé chercher l'œuvre d'art pour venir séduire, nourrir la Vénus artistique de Doucet. Donc là, c'est quand même frappant de voir cette relation symbolique très forte. Alors la relation n'a pas duré, il y a Aragon qui est venu joindre à Breton après, mais je ne vais pas vous parler d'Aragon. On voit aussi la conjonction Mercure-Mars de Jacques Doucet, ben, qui est dans l'ordre de la conjonction au soleil de Breton. Alors, il faut quand même savoir que Breton avait toujours cette capacité de mettre le doigt sur l'œuvre majeure, parce que Jacques Doucet est rentré en possession des Demoiselles d'Avignon de Picasso à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, quand Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon, ça n'a pas du tout le succès qu'aujourd'hui on dit. Ça a été le scandale. Les critiques de l'époque étaient absolument scandalisées. Qu'est-ce que c'est que ces femmes, tordues, enfin bon. Et Breton a tout de suite vu que c'était une œuvre majeure, charnière du XXe siècle. Et il a dit à Jacques Doucet, il faut que vous fassiez l'acquisition de cette œuvre. Et Doucet a eu pendant des mois cette œuvre en sa possession. Donc c'est bien pour vous montrer la capacité extraordinaire. Breton a aidé, Marcel Duchamp n'aurait pas eu le succès qu'il a eu en France s'il n'y avait pas eu Breton. Breton, à partir d'une simple photo du nu descendant l'escalier de Duchamp, a fait un texte extraordinaire sur l'œuvre de Duchamp, et Duchamp a pu faire son entrée en France. Et j'en passe, Max Ernst, Magritte, sont tous passés par le surréalisme. Dali disait qu'il avait eu deux pères, Picasso et Breton, et qu'il admirait en Breton tout ce qui était contraire à lui. Donc on voit la portée considérable de cet homme. Alors maintenant, je vais passer à autre chose. On parle souvent de la dominante en astrologie. Moi, je pratique l'astrologie traditionnelle, pour vous dire. Alors, on parle souvent de dégager une dominante. Alors, c'est pas toujours facile de dégager une dominante, mais quelquefois, il n'y en a pas toujours. Alors, je suis arrivé à cette réflexion, pas cette conclusion, parce qu'il faut se méfier des conclusions, que le surréalisme relève d'une dominante Uranus-Neptune. Alors, pourquoi ? Eh bien, Uranus est lié au mythe de Prométhée. Et quel a été l'enjeu du surréalisme ? Eh bien, c'est de redonner à l'homme la clé de ses pouvoirs perdus. C'est-à-dire retrouver en lui la clé à la fois des mystères de son inconscient et faire à partir de ceci une action pour transformer la réalité. C'est-à-dire d'arriver à joindre le rêve et la réalité de manière à éviter ce divorce permanent qui fait qu'on peut arriver à des états de déséquilibre psychique énorme et sur un autre plan artistique, ramener des joyaux. C'est un petit peu une quête alchimique. Il est allé chercher la pierre philosophale, Breton, et tous les surréalistes avec lui, tous ceux qui l'ont rejoint. Et Neptune, parce que ce sont toutes les forces psychiques, mais c'est aussi tout le rayonnement international qu'a eu le surréalisme. C'est-à-dire que ça a été un mouvement, vous avez eu des groupes au Japon, vous en avez encore à Chicago, vous en avez en Tchécoslovaquie, vous en avez eu au Brésil, bref, ça a eu un rayonnement considérable, c'est-à-dire qu'on n'a pas idée de l'importance de ce mouvement. Et puis quel a été aussi l'élément qui m'a amené à faire cette étude, parce que ça fait des... J'ai découvert l'astrologie sur des thèmes de créateurs. Nous ne sommes pas les possédeurs de la pierre philosophale. C'est cette chose très simple. Le surréalisme, la première définition qu'on a donnée Breton, c'est en 1924. Et en 1966, Breton disparaît. Nous avons, entre ces deux dates, 42 ans. Et 42 ans, ça correspond à quoi ? À un demi-cycle d'Uranus. Alors, une petite digression, le mot surréalisme n'est pas d'André Breton, il est de Guillaume Apollinaire. Lors d'une pièce qui s'appelait Mamelles de Thérésias, les Mamelles de Thérésias, Guillaume Apollinaire avait écrit « drame surréaliste », puis il en est resté là. Et Breton a repris le terme pour lui donner la définition que je vous ai lue en début d'entretien. Alors c'est intéressant, ces 42 ans. Et j'en suis arrivé à cette réflexion, elle vaut ce qu'elle vaut. 42 ans, c'est au moment où Uranus s'est fait face à lui-même. En 24, Uranus était en poisson. Et en 66, il était en vierge. C'est-à-dire que ma réflexion est la suivante. La création, en 66, la création a fait face à son créateur. C'est-à-dire que c'est comme si l'objet créé, là en l'occurrence c'est Uranus, on peut associer aussi le mythe de Prométhée au mythe du golem, c'est-à-dire que la création fait face à son créateur, et pour qu'elle puisse vivre pleinement, en pleine liberté, il faut qu'elle tue son créateur. C'est-à-dire que dans tous les rites initiatiques, vous avez cette phrase, l'initié doit tuer l'initiateur. Alors tout ceci est bien ésotérique, tout ce que je vous dis là, mais ça m'a énormément frappé. Pile 42 ans, la création de Breton lui fait face et elle décide d'en rompre là. À la même époque, en septembre 66, Jupiter retransitait son Jupiter radical. C'est-à-dire que Zeus repassait sur sa position. C'est comme s'il y avait un passage de pouvoir également. Il faut régler. D'autre part, Breton était asthmatique. Il a été hospitalisé d'urgence et il est mort le lendemain. on voit que qu'une grande partie de la 8 se trouve dans le signe des Gémeaux, qui régissent les voies respiratoires, l'expire et l'inspire. On y trouve Pluton et Neptune. Neptune, en 66, était à l'opposition de Neptune radical. Beaucoup, beaucoup de superpositions. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que là, c'est très compliqué. Vous avez le thème du décès qui est à côté. Vous voyez un petit peu l'axe 6-12, comme il est occupé. Vous avez une conjonction Lune-Saturne, et vous avez une conjonction Vénus-Uranus-Pluton. C'est-à-dire que le maître de l'ascendant du thème de décès est coincé en 12, à côté de deux planètes détonantes, Uranus-Pluton, et Saturne en face, qui marque le début et la fin. C'est quand même le grand métronome. Donc, on voit quand même l'aspect, il n'est pas forcément très 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 rassurant. Et Breton, d'ailleurs, a eu cette phrase très drôle quand il était très jeune, je crois que c'est dans le manifeste du surréalisme, où il dit qu'il veut être conduit à son enterrement dans un camion de déménagement. Bon, et quand il est sorti de chez lui le soir où il a fait une crise, il a dit à Elisa, sa compagne, « Je suis en train de rater ma sortie. » C'était tout l'humour du personnage. Voilà, écoutez, j'en arrêterai là. Oui, tout à fait. Alors, j'espère vous avoir donné envie de découvrir l'œuvre d'André Breton, vous avoir donné envie de davantage étudier les thèmes de créateur, et vous avoir donné envie le désir de pratiquer les synastries, parce que c'est une technique qu'on ne pratique pas assez. Et ben, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.
Est-ce que vous avez par synastrie une planète sur celle d'André Breton?
C'est intéressant ce que vous me dites. Alors, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai fait l'étude qui se trouve dans la revue L'Astrologue, je l'ai adressée à André Barbeau, parce que je sais qu'André Barbeau avait eu une correspondance avec Breton. Et André Barbeau me demande à me rencontrer. Alors je dis à André Brère, qui est ici, qui dirige les éditions traditionnelles, je lui dis, mais disons, pourquoi Barbeau veut me rencontrer, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, je ne sais pas. Il dit, d'habitude, il ne rencontre pas les auteurs, je ne sais pas. Alors je vais chez lui, c'est quand même pas n'importe qui, Barbeau, hein. C'est 65 ans d'astrologie derrière lui, c'est pas... Je vais un peu intimider, puis il me reçoit, avec toute cette simplicité qu'il caractérise, puis il me dit, vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? J'ai fait, qu'est-ce qui vous arrive? Mais il me dit, vous êtes sûr de votre thème? Je lui dis, oui. Mais il me dit, mais le 19 février, vous êtes sûr? Oui. Mais il me dit, moi, j'ai fait l'étude pour le 18. J'y fais, oui, mais vous vous êtes fait avoir. Il me dit, oui, mais Breton avait dit qu'il était né un 18 février. J'y fais, oui, il avait menti. Et j'y fais, c'est bien poisson. Alors, il me dit, oui, c'est vrai. Et puis, il va dans ses étagères, il retire le petit fascicule sous le signe. Là, il l'avait fait en verso, puis il me lit le passage. Puis il me dit, alors vous vous rendez compte? Il me lit ça, et puis il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'étais quand même, je me suis dit, c'est le monde à l'envers, quoi. Je me suis dit, c'est le monde à l'envers. J'ai dit, écoutez, monsieur Barbeau, votre étude, elle est très juste. Parce qu'alors, pour le 18, alors il avait même triché d'une façon incroyablement vicieuse, Breton. 18 février 96, 22h30. La demi-heure. Alors la demi-heure, ça déplace la maison 4, ça la met en verso. Et ça met la lune bélier. Alors je dis à Barbeau, mais je dis, écoutez, Barbeau détestait voyager, c'était un casanier, il n'a jamais déménagé de sa vie. J'ai fait ses capricornes au verso. Oh, il me dit, c'est capricorne. Bon, j'ai fait, vous voyez déjà. Et puis je dis, vous avez tout axé sur le côté très insurrectionnel du personnage, parce que j'ai pas abordé cet aspect, mais attention, Breton, c'était aussi un homme. C'était, les surréalistes n'étaient pas des poètes qui taquinaient la muse et qui faisaient... qui s'allongeait dans les fleurs. Hein. C'était des poètes de la réalité et de l'action. C'était un peu l'adage de Rimbaud, la poésie ne rétablira plus l'action, elle sera en avant. Donc c'était des poètes qui étaient impliqués dans l'action. Ils ont rédigé de nombreux tracts. Vous avez deux tomes aux éditions Le Spell, il n'y a pas plus grand tract décrit que par les surréalistes, n'est-ce pas, hein? Vous avez pris part à des tracts, d'ailleurs.
Deux. Oui, j'en ai écrit deux.
D'accord. Alors, il y avait ce côté-là. Alors, je dis à Barbeau, vous avez oublié toute la dimension poétique du personnage. Et puis là-dessus, maintenant, je réponds à votre question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que la Breton a eu autant de retentissement dans la rencontre de Breton dans ma vie? Et puis, il me demande quand êtes-vous né. Alors, il fait le thème très rapidement parce qu'il a tout en tête, hein, ça va très vite. Il me dit, c'est pas compliqué. Il me dit, vous avez une conjonction déjà Mercure-Neptune en Scorpion. Puis il me dit, vous avez un superbe Uranus qui culmine. Et il y a un autre personnage qui a beaucoup compté, c'est Arthur Rimbaud. Et Rimbaud a une opposition, je crois, Mercure-Pluton sur l'axe d'horizon. Et il me dit, on retrouve ces deux tonalités, la saison en enfer d'Arthur Rimbaud qui est Pluton, et toutes les valeurs uraniennes très indépendantes et très iconoclastes du surréalisme par Uranus. Donc ces deux planètes dans mon thème, si vous voulez, encadrent le milieu du ciel. Par synastrie pure et superposition, il y a le soleil de Breton qui est au trigone. Alors le soleil rentre dans ma maison 4 de Breton, et il est au trigone de ma conjonction Mercure-Neptune 12 du Scorpion. Et puis, j'ai un soleil qui se superpose à son Uranus natal.
Ça, c'est...
Voilà. Je gardais ça pour la fin.
C'est ça, oui. C'est la question du tour.
Êtes-vous sûr de son heure de naissance? Parce que moi, je sens le Scorpion dans tout ce que
ah,
vous
oui.
avez dit.
Bah, oui.
Je suggère un ascendant Scorpion.
Alors justement, c'est très bien, vous...
Il y a les superpositions dans le Scorpion.
Alors c'est très intéressant.
Complètement le Scorpion.
Oui. Alors je vais vous dire pourquoi là, votre question est intéressante. Parce qu'il est ascendant Balance. Oui, mais attendez. Oui, mais il y a le Scorpion qui participe de l'ascendant. Parce que vous avez un ascendant. Alors vous savez, alors ça aussi c'est une technique de lecture astrologique. L'ascendant s'étend de 19°12 de la Balance au 15e degré du Scorpion. C'est-à-dire que le Scorpion participe de sa personnalité. Il a un départ, parce qu'on ne peut pas gommer les 15 degrés des maisons comme ça. Il est important de tenir compte de la cuspide, mais il y a tous les degrés derrière, et vous avez 15 degrés du Scorpion.
Ce qui est très intéressant pour le rayonnement international.
Pourquoi un Jupiter en 9? Est-ce que vous décalez? Ah non, mais moi je ne vous parle pas d'ascendant Scorpion. Je suis en train de vous dire pourquoi le Scorpion participe aussi. Oui. Ah ben non, je peux pas.
Le Scorpion, il fait partie de la maison 1, là. Donc ça fait partie de la personnalité profonde.
Mais non, mais attendez, vous avez quand même un Mercure qui est au trigone de Pluton, 8, hein. N'oubliez pas que ça teinte, hein. Non, mais là, je vous parle sur le thème actuel. D'accord. Je peux pas vous dire sur l'heure, non. Non.
Marqué dans son registre de naissance.
Ah oui, j'ai la photocopie de l'acte de naissance, oui. Mais bon, de là à dire que l'acte de naissance est juste aussi, je peux pas.
Oui, je crois que personne n'aime Saturne ici, mais Saturne est en Scorpion.
Oui. C'est le maître de 4.
Ben oui, pour moi, c'est une clé dans son thème.
Tout à fait.
Son point d'ancrage.
Oui, tout à fait. Hein? C'est Saturne 4.
Ses visions... prophétique, puisque tu as parlé du côté prométhéen, il est là.
Oui. Oui, puis c'est la nature de Breton aussi. Il avait un côté très saturnien, mais de toute façon. Oui.
Par d'autres techniques, vu comme dans l'enfance, bon, il a été contrarié, hein, tu nous l'as expliqué. Le soleil n'est pas
enfant
très
unique.
Et pas très bien aspecté, son soleil. Il a fallu qu'il conquière. Il n'était pas acquis dès l'enfance. À mon avis, il a été identifié Saturne.
Oui. Ah ben, il a une vie saturnienne pour moi aussi. Très.
Pour moi, il est identifié Saturne.
Oui.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ben, c'est le maître de 4, et tu retrouves Vénus en Capricorne, donc tu as tout le jeu de balancier. Alors j'ai pas parlé du sextile Vénus à Uranus-Saturne, vous m'en excuserez. Ça fait partie aussi non seulement de la profondeur de ses attachements, mais de toute l'originalité du personnage dans ce qu'il a choisi sur le plan artistique. Vous avez une Vénus qui est au sextile d'Uranus, Donc ça marque toute l'originalité du personnage. Et vous avez Mars qui est au sextile de Saturne, qui s'appuie sur le premier sextile précité, donc qui marque aussi les ruptures avec tout le côté conventionnel et traditionnel. Donc ce qu'il pouvait choisir ne pouvait qu'à l'époque créer évidemment beaucoup de remous et beaucoup de contestations. Parce que ça, la conjonction Uranus-Saturne, c'est quand même la modernité et la tradition côte à côte. Donc il y a complètement une lutte dans le signe du scorpion, qui est quand même le signe des bouleversements et de la révolution. Donc on voit bien que là aussi, son choix artistique était un choix qui parlait de notre société d'aujourd'hui. Tous les artistes surréalistes sont des artistes d'aujourd'hui. Et évidemment, je vous ai mis le thème de Lautréamont et de René Magritte pour vous parler de cette dominante Uranus-Neptune. Regardez Magritte, il a une conjonction Soleil-Uranus à l'ascendant.
J'arrive.
Qui est énorme. J'avais oublié d'en parler de cela. Bon. Il y a une conjonction Soleil-Uranus à l'ascendant pour Magritte. Et pour Lautréamont, que les surréalistes avaient désigné comme le poète phare, eh bien on trouve une conjonction Soleil-Uranus et un Neptune verso angulaire pointe de 10. Alors quand on voit le rapport, je dirais, intuitif qu'ils ont eu, c'est tout à fait, je dirais que c'est un ravissement de travailler l'astrologie de cette façon, quoi, parce que tout parle.
Attends, je voudrais juste te poser une question. Vu le Mercure rétrograde, hein, tu nous as parlé de Mercure rétrograde dans son thème en Verseau. Trigone Pluton, est-ce que tu peux dire qu'il a un Mercure psychopompe?
Ah oui, c'est intéressant.
Ah, ouais. Est-ce que tu nous en as parlé vraiment comme quelqu'un qui était initié, inné, ouais, initié, ouais,
ouais. Il avait cette phrase dans Nadja où il disait tout ne reviendrait-il pas à dire qui je hante? Voilà. C'est-à-dire qu'il avait un rapport, alors ça peut-être M. Alexandrian pourra en parler, de ce rapport très psychique et très naturellement initié, c'est-à-dire que c'était un avorteur, c'était un accoucheur. Les gens en son contact étaient obligés de se sublimer, naturellement.
Oui, certainement, puisque moi j'ai même rencontré des poètes qui, après avoir s'être séparés de Breton, n'ont plus rien fait du tout. C'était donc son rayonnement qui les galvanisait.
Alors, moi, je vais dire quelque chose qui est un peu différent, parce que je suis une passionnée d'art contemporain, et René Magritte a peint un merveilleux tableau qui s'appelle La Lune Noire. Et vous le connaissez ? Alors, malheureusement, je vois que sur le thème de René Magritte, il n'y a pas de lune noire. Alors, c'est pas pour lui.
Elle a été gommée.
Elle a été gommée. Alors, l'hommage à René Magritte avec son superbe tableau, La Lune Noire, a fait quoi?
Comme si on pouvait la gommer, la lune noire.
Ingommable, la lune noire.
Bah, oui, elle est gommée.
Il faut vous dire que les titres de Magritte étaient des paradoxes. Hein. Ils donnaient le titre le plus contraire à l'image que... Oui, c'est... Oui, je connais bien, oui, mais oui, d'accord, mais enfin, je faut vous dire que le titre est fait pour désorienter chez Magritte. Bon, il peint une pipe en disant ceci n'est pas une pipe. Alors, il peint la lune noire en disant ceci n'est pas la lune noire, au courant des...
Écoutez, moi, je suis très lune noire et j'ai trouvé que ça me parlait beaucoup, le tableau La Lune Noire de Magritte. Et cette maison qui est absolument merveilleuse avec cette lune noire, c'était sa main. Non, mais bon, je suis restée des heures devant ce tableau extraordinaire. Enfin, j'ai été très marquée par le tableau de Magritte.
Ah oui. Fabrice, pourquoi est-ce que les lunes noires sont gommées dans les thèmes?
Parce que je l'utilise pas, moi. C'est tout.
L'astrologie traditionnelle.
Voilà. Donc, cela dit, bon. Non plus, non, je. Ah oui, mais bon, je suis un astrologue incomplet.
En hommage à Magritte, il faut mettre la lune. En hommage à Magritte.
Ouais, bon. Oui, c'est...
La lune noire, symboliquement, elle est absence aussi.
C'est un vide, un manque c'est, qu'on remplit.
C'est une ou l'autre. Elle est absence, présence, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas nommée dans les thèmes.
Pardon ?
Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil.
La lune noire, elle dérange toujours. Là, on en a un bel exemple ce soir.
Alors, juste une petite chose. Vous avez, si vous voulez voir, découvrir déjà un peu Breton, vous avez dans la revue L'Astrologue l'interview qu'il a faite sur l'astrologie, parce que Breton s'était passionné d'astrologie aussi. Il montait des thèmes. Il n'était pas astrologue, il ne se prétendait pas comme tel, mais il s'est passionné d'astrologie. Et il y a une interview dans la revue L'Astrologue où André Barbeau et Jean Carteret sont allés l'interviewer et il donne son sentiment. Et je peux vous dire que des personnages comme lui aujourd'hui, ça manque, parce que non seulement c'était une grande envergure au niveau intellectuel, mais c'était un homme qui allait consulter des voyantes, qui allait voir des astrologues. Il ne rasait pas les murs pour aller les voir, puisque dans le premier manifeste du surréalisme, vous avez un très beau texte qui s'appelle « La lettre aux voyantes ». Et je peux vous dire que ce texte est une splendeur. C'est un hommage rendu aux voyantes, et ils ne rasaient pas les murs, hein, comme aujourd'hui je peux vous dire, il y en a beaucoup qui le font. Bon. Donc ça manque des personnages de cette envergure, quoi. Voilà. Merci.
Je vais parler. Comment il s'appelle?
Fabrice.
Il le sait peut-être. C'est le monsieur d'à côté qui doit le savoir.
Monsieur Alexandre, on voudrait vous poser une question.
Oui, mais c'est une fausse question, mais c'est-à-dire c'est à cause de l'accès.
Ah ben,
on en parle dans
tout ce que vous voulez.
Comme il est très scorpion et très plutonien, peut-être.
Ah voilà, bon d'accord.
La découverte de la planète Pluton, je veux dire, elle était toujours dans le ciel.
Oui.
On y a eu accès en termes d'énergie en 1930 à 36, oui. Et au moment où Freud a commencé à mettre au point tout ce qui était inconscient et la psychanalyse. Je voulais vous demander s'il y avait eu un jaillissement plus étonnant dans ses discours ou son approche du surréalisme entre 30 et 36. Voilà, ma question.
Entre 30 et 36.
On avait accès à cette planète beaucoup plus facilement. Maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Tu es très marqué par cette planète.
Ben, c'est entre 30 et 36, c'est l'époque où il a le plus de combats avec le parti communiste. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il essaye d'être marxiste et il a des conflits continuels avec le parti communiste. Il a écrit des pamphlets très violents, enfin. Donc, c'est une époque d'engagement politique, mais d'engagement politique très... très polémique. Ah donc c'est peut-être Pluton, effectivement. Mais alors lui, des règlements de compte, absolument. Il y a eu un pamphlet, donc c'est évidemment. Mais je dois vous dire qu'il avait, puisqu'il parlait d'astrologie, qu'il faisait des thèmes astrologiques, il en a fait à certains de mes amis, eh bien, la planète à laquelle il accordait le plus d'importance était Uranus, puisqu'il a dit, dans le second manifeste, il faudrait faire un livre qui ne soit pas de mauvaise foi sur Uranus. Alors donc, ça rejoint ce que dit notre ami.
Il y a le livre d'Emmanuel Lebray sur Uranus.
Justement, Emmanuel Lebray ne parle pas d'André Breton. C'est un grand absent. Non, mais il parle d'Uranus. Non, mais il parle, oui, mais un jour, c'est le thème du livre, André. Oui, mais il ne parle pas de Breton. C'est le grand absent. Oui, il manque. Bon. Et puis 1930, c'est l'époque où Breton a fait un grand écrémage autour de lui, pour répondre à votre question. Ça a été le moment où il y a eu un raz-de-marée dans le mouvement surréaliste, des exclusions, et où un groupuscule du mouvement surréaliste s'est ligué contre lui. Alors il y avait Prévert dedans beaucoup, et ils ont fait un cadavre avec une photo de Breton avec une couronne d'épines, et là ils y sont pas allés de main morte. Hein. Et Breton a répondu, il a eu cette phrase très drôle, « Ah, tant de talent contre moi, ça me fait plaisir. Tant de talent contre moi, ça me fait plaisir. » Parce qu'ils y sont pas allés de main morte. Il y en a un qui, c'était Georges Juniet qui avait écrit « J'aimerais te voir saigner du nez ». Enfin, c'était des... Ah, ils sont...
Monsieur Alexandrien a fait un écrit sur André Breton, Le rêve et le surréalisme.
Ah oui, j'ai fait un livre sur André Breton, en Breton par lui-même, et puis j'ai fait le surréalisme et le rêve, qui est effectivement l'importance du rêve dans le mouvement surréaliste, mais pas seulement chez Breton, chez tous les surréalistes.
Voilà. Parce que j'ai vu ce livre en librairie, tombée dessus, en arrêt.
Oui, il a été réédité. Oui.
C'était une librairie ancienne, des livres anciens.
Ah bon, bah, tant mieux, alors c'est la première édition.
Malheureusement, il ne doit pas beaucoup travailler, parce que c'est souvent fermé.
Ah bon, vous me décevez, alors. Mais enfin, on le trouve dans d'autres librairies.
Il
y a une chose, j'ai lu beaucoup d'essais sur André Breton Et je dois reconnaître que, en dehors de la biographie qui est sortie l'année dernière, écrite par un Américain, mais c'est une biographie, au niveau des essais écrits sur Breton, il y en a deux qui m'ont marqué. C'est celui de Charles Duitz, qui s'intitule « André Breton a-t-il dit passe ?» et l'essai de M. Alexandrian aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Breton par lui-même » dans la collection « Écrivain de toujours ». Et ce sont deux essais où il y a une très grande sensibilité. Bon, Charles Duitz raconte sa rencontre avec Breton. Il avait 17 ans, il était aux États-Unis. C'était au moment de la Seconde Guerre mondiale. Breton était exilé en Amérique. Et Duitz, à 17 ans, il rencontre Breton là-bas. Donc évidemment, Breton se retrouvait devant peut-être le nouveau Rimbaud, 17 ans. Il y a eu tout un rapport passionnel extraordinaire. Et le livre de M. Alexandrian qui nous parle d'un Breton aussi, détruisant tous les lieux communs qu'on a accolés à Breton. On l'a appelé le pape du surréalisme. Bon, soit il y a un Jupiter qui culmine, mais enfin, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce qui est grotesque. La théorie du père, bon, M. Alexandrian règle la question également. Enfin, il y a une vision très, très intéressante, voilà, pour ma part. Ben, Monsieur Alexandrian, sans déflorer, sans thème, parce que j'ai pas à le déflorer, mais... Non, Monsieur Alexandrian a un Neptune important dans son thème. Et puis d'autres choses, effectivement, qui ne pouvaient que le rattacher spontanément au mouvement surréaliste. Oui. Maintenant, je ne peux pas parler du thème de M. Alexandrian sans autorisation. Est-ce que c'est... Alors, M. Alexandrian, vous allez voir cette réaction très spontanée et Gémeaux ascendant Lion. Donc, vous avez tout de suite là. Cette facilité et cette jeunesse d'esprit. Alors, Monsieur Alexandrian a un beau Neptune angulaire à l'ascendant. Et il a une belle conjonction Jupiter-Uranus en maison 8 en bélier. Et puis une belle conjonction Mercure-Pluton en cancer. Et puis une belle conjonction Vénus-Mars en lion. Et une lune Sagittaire. Un beau triangle de feu. Ah oui.
Quelle énergie!
Ah, une énergie extraordinaire, parce que la productivité de Sarah Alexandrian, c'est. Oui. Vous préparez un livre là sur un peintre, évidemment, Luba, oui.
Est-ce que j'ai une. Une estrie avec Breton?
Ah, ben je vous ai dit, vous avez une dominante neptunienne. Et puis, alors il faudrait tout superposer parce que là, j'ai plus les degrés en tête. Je ne peux pas vous répondre comme ça à la va-vite. Mais il y a déjà le Neptune et puis Jupiter-Uranus 8, quoi, énorme. La Lune est en Sagittaire en 5. Elle fait trigone à Vénus-Mars et à Jupiter-Uranus.
Sa Vénus-Mars en Bélier.
En Lion.
En Lion.
Ouais. Ah, vous parlez de qui, là?
Je parle, monsieur.
Ah, c'est en Lion. Ouais, oui.
Peut-être sur son
Jupiter. Ah ben, il y a le Jupiter qui est dedans, ça passe là-haut. Oui, bien sûr.
Vénus-Jupiter, c'est génial.
Ah bon?
Merci. Excusez-moi, que pensez-vous des soleils qui sont juste à zéro d'un signe? Parce que moi, j'ai appris avec Joël de Gravelaine que ces gens qui avaient des soleils à zéro étaient porteurs du signe précédent, qui est le Verseau, et abordaient le signe suivant, qui était les poissons. Donc, ouais. On sent bien la...
Oui, tout à fait. De toute façon, il en va du soleil comme de la lune. Hein. Une lune qui est juste au zéro degré d'un signe, elle est complètement chargée du signe précédent. Oui, tout à fait, d'accord. Oui, absolument.
Oui, au sujet d'un soleil à zéro verso, enfin au zéro degré d'un signe, c'est-à-dire au premier degré, il faut toujours regarder, enfin c'est une habitude de l'école humaniste, il faut toujours regarder la nouvelle lune avant la naissance. Donc une personne qui est née avec le zéro degré verso automatiquement est née après une nouvelle lune en zéro degré poisson, pardon. Est née automatiquement après une nouvelle lune en Verseau, donc elle est marquée de la nouvelle lune qui précède sa naissance. C'est une raison de plus pour tenir compte du signe précédent, le soleil à zéro d'un signe.